Céleste, pour te dire merci, pour te louer, te glorifier, te magnifier, pour t'exalter, parce que tu es Dieu. D'éternité en éternité, tu es Dieu. D'éternité en éternité, tu es Seigneur sur nos vies. Oui, Seigneur, viens nous transformer pour ta gloire. Viens faire de nouvelles choses dans la vie de chacun de nous. Oui, Seigneur, nous ne sommes pas venus par formalité, mais nous sommes venus à toi. Toi, le seul vrai Dieu, créateur du ciel et de la terre. Et Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est mort afin que nous nous soyons vivants. Oui, Seigneur, reçois toute la gloire en ce moment. Oui, Seigneur, je voudrais m'effacer afin que toi, tu prennes la première place. Viens glorifier ton nom à travers moi, Seigneur. Viens parler à travers moi, Seigneur. Chacun de nous, Seigneur, nous sommes venus parce que nous avons faim de ta bonne nourriture. Viens nous donner le meilleur de toi-même ce soir, Seigneur. Oui, Seigneur, ce que tu as réservé pour chacun de nous individuellement, parce que tu nous connais chacun individuellement par nos noms. Oui, Seigneur, le repas que tu as préparé, nos noms sont gravés sur des plats que tu as déjà disposés, Seigneur. Nous voulons prendre notre part ce soir. La part que toi, tu as réservée, que tu savais qu'en ce jour, nous serions en ce lieu pour récupérer cette bénédiction que toi, tu as mis en réserve pour nous. C'est pour cela maintenant, Seigneur, je prends autorité dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je lis tout esprit de distraction, tout esprit de perturbation. Je soumets tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ. Je le soumets à l'autorité du Saint-Esprit. Et je déclare que la gloire de l'Éternel s'établit en ce lieu. Oui, Seigneur, fais quelque chose d'exceptionnel au milieu de nous. Viens glorifier ton nom afin qu'au terme de tout ceci, Seigneur, toute la gloire te revienne. Merci, Père Céleste. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen, 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 amen. Veuillez vous asseoir. Applaudissons très fort la chorale. Parce que nous voyons une nouvelle onction sur la chorale sur aujourd'hui. Applaudissons très fort la chorale. Encourageons-les. Encourageons-les. Nous allons prier pour les enfants. Nous allons les recommander à la charge de l'Éternel avant qu'ils ne partent. Baissons la tête et prions. Dieu de gloire, Dieu de fidélité, ô Père Céleste, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour ces enfants. La Bible déclare que les enfants sont un don de Dieu, de toi, un don qui vient de toi, que tu confies aux parents. Nous te présentons ces dons que tu nous as donnés, Seigneur. Et nous te les recommandons en ce moment où ils vont partir, Seigneur, pour prendre leur part de la nourriture que tu as réservée pour chacun de nous aujourd'hui. Seigneur, bénis-les et garde-les. Nous prions, Seigneur, que tu ouvres leur esprit et que tu connectes ton esprit à leur esprit afin qu'ils puissent participer à la communion que tu as pour nous aujourd'hui. Seigneur, j'active tes anges et tes principautés célestes autour d'eux, Seigneur. Glorifie ton nom dans la vie de chacun de ces enfants. Je te recommande également les instructeurs, les instructrices que tu as mis à leur disposition. Remplis-les, Seigneur, de ta connaissance afin que ce que tu as pour ces enfants, tu les transmettes à travers eux. Glorifie ton nom dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour la vie de son serviteur, le pasteur Berger, qui nous donne l'opportunité de servir dans la maison de l'Éternel. Merci, pasteur, pour cette opportunité. Je voudrais également rendre grâce à Dieu pour la vie de la servante de l'Éternel, la mère des nations, pour ce soutien permanent et constant qu'elle apporte à notre pasteur Berger et qui rejaillit sur nous qui sommes les fidèles. Merci maman Chantal pour cette bénédiction qui rejaillit sur chacun de nous dans son ministère. Chers frères et sœurs, je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pratiquement tous ceux qui sont dans la salle me connaissent. Je suis le serviteur de Dieu Simon-Pierre de Vélandé, celui que Dieu a envoyé en Chine en ce moment pour partager sa gloire sur cette terre chinoise, tout en étant l'ambassadeur de mon pays, la République du Bénin en Chine. Ce soir, nous allons continuer notre thème, la transformation en profondeur. Mais ce soir, nous allons aborder cette transformation en profondeur par le principe de l'émondage. Les mandats, nous allons voir ce que c'est tout à l'heure. Et nous allons nous baser sur le texte de Jean, chapitre 15, versets 1 à 11. Parce que le processus de transformation en profondeur a pour finalité de faire de nous des instruments de transformation. Ce n'est pas nous qui allons changer les autres, mais notre changement en profondeur, notre transformation en profondeur, devient un instrument des mains de Dieu pour changer les autres. Parce que c'est Dieu qui transforme. De la même manière qu'il est en train de nous transformer, Une fois transformés, nous devenons un instrument de ses mains pour qu'il puisse transformer d'autres à travers nous. Amen. Donc, dans le message, nous allons voir, continuer ce même processus de transformation dont nous avons parlé à travers le principe de l'émondage. Nous allons lire entièrement le texte de base parce qu'il y a certains parmi nous occupés dans la semaine par les activités. C'est le samedi après-midi qu'on recherche encore où est la Bible pour pouvoir sortir. Donc, nous allons permettre à ceux-là qui n'ont pas eu la chance de lire la Bible dans la semaine, de lire au moins 11 chapitres ce matin, 11 versets ce matin, et cet après-midi ensemble avec nous. Donc, nous allons lire Jean chapitre 15, versets 1 à 11. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pourrez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le sarment, il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Amen.
Amen.
C'est un test rempli de messages et d'enseignements. Mais nous allons nous focaliser sur quelques passages. Mais avant d'aller plus loin, nous allons voir quelques définitions. Nous allons voir quelques définitions parce qu'il y a tellement de mots que Jésus a utilisés pour donner l'image qu'il voulait présenter. La première définition que nous allons voir, le mot que nous allons voir, c'est le cep. Jésus dit « Je suis le vrai cep ». Le cep, selon le dictionnaire Robert, c'est un pied de vigne, le tronc de la vigne. Mais nous allons voir le mot grec qui a été utilisé et qui est traduit par cep, c'est le mot ampulos, qui signifie un pied de vigne, mais dans un esprit de support et de soutien. Donc c'est un pied de vigne, mais qui supporte les branches, qui supporte les fruits. Donc c'est dans un esprit, c'est pas seulement un pied de vigne, mais c'est un pied de vigne dans un esprit de soutien, de support. Donc, on peut traduire et dire, Jésus dit, je suis le vrai support, je suis le vrai soutien. Amen.
Amen.
L'autre définition que nous allons voir, Jésus dit, mon Père est le vigneron. Le vigneron, c'est une personne qui cultive la vigne, qui fait le vin. Et ça, c'est la définition du dictionnaire Robert. Mais le mot grec qui a été traduit dans la Bible par vigneron, c'est Georgos, qui désigne une personne qui travaille la terre, un fermier. Celui qui travaille la terre, c'est celui qui enlève les cailloux, qui prépare la terre, qui prépare le sol afin qu'il soit fertile pour pouvoir recevoir la semence. C'est Dieu qui entretient la terre que représente notre cœur, qui va recevoir la semence de la parole. C'est lui le vigneron de notre vie, de notre cœur. Il prépare le sol. Amen. Et le troisième mot que je voudrais définir, que nous allons voir, c'est le sarment. Parce qu'il dit que le sarment doit être attaché à la vigne. Le sarment, c'est le rameau de la vigne. C'est une branche. selon le dictionnaire Robert. Mais là également, c'est un mot grec qui a été traduit par Salmon. C'est le mot kléma, qui signifie une tendre et flexible branche. Donc ce n'est pas seulement une branche, mais il faut retenir la notion de tendre et flexible. Amen. Et nous verrons tout à l'heure pourquoi le mot kléma a été utilisé pour définir le sarment. Après, ça a été traduit dans le français en sarment. Mais retenez déjà la notion de tendresse et de flexibilité de la branche. Du sarment qui est attaché à qui est une pousse, une branche de vie. Amen. Alors, ayant cette définition en tête, nous allons voir qu'est-ce que Jésus veut dire pour nous en disant « Je suis le cep ». Jésus-Christ le cep, il dit « Je suis le vrai cep ». Jean 15, le premier verset, « Je suis le vrai cep ». Nous pouvons dire également, Jésus est en train de nous dire « Je suis le vrai soutien ». Vous pouvez aller chercher des soutiens partout. Vous pouvez aller chez le féticheur, vous pouvez... C'est moi qui suis le vrai soutien dont vous avez besoin. Je suis le vrai soutien de votre vie. Et il annonce dès le début de notre test de méditation. Il n'y a pas un autre soutien que nous pouvons aller chercher. Et je me rappelle, vous savez, chacun de nous, même quand nous sommes dans le Seigneur, il y a toujours, par notre éducation, nous voulons avoir des choses matérielles pour voir si c'est bien le soutien là, il est là. C'est peut-être notre compte en banque. C'est peut-être les relations que nous avons. Nous nous disons de toutes les... Moi, il y a même dans ma langue, il y a un proverbe qui dit « Au quoi d'un amour ?» Ce n'est que l'argent que ça va prendre. Tant qu'il y a de l'argent, il n'y a pas cette situation qu'on peut parler. Ça aussi, c'est un soutien, mais ce n'est pas le vrai soutien. Ou bien on se dit... Il a un carnet d'adresse très épais comme ça. Il connaît tous les chefs d'État. Amen. Je me rappelle d'un candidat en 2016 dans mon pays, déjà en 2015. Il disait que lui, il a un grand soutien dans la sous-région. Que c'est lui son soutien. Et avec ce soutien, c'est garanti qu'il est le prochain président du pays. Il m'a montré sa photo avec ce soutien, je t'ai le nom de ce soutien, mais c'est un chef d'État d'Assemblée. Mais moins d'un an avant les élections, ce chef d'État a été chassé du pouvoir. Donc, tout son soutien s'est écroulé. Mais personne ne peut chasser Jésus-Christ du pouvoir. Il est assis sur le trône d'éternité en éternité. Il est le vrai soutien, il est le vrai support. Je suis le vrai cep. Amen.
Amen.
Pourtant, déjà, dans Jean 14, verset 6, Jésus nous disait qu'il est la vie. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Donc, le soutien même de notre vie, c'est Jésus-Christ. L'air que nous respirons, la santé que nous avons, tout ce que nous avons, c'est Jésus-Christ qui se manifeste. C'est ça le vrai cep. C'est le soutien, le support de notre vie. Le seul fait même de venir, de marcher, pour venir à l'église aujourd'hui, c'est le vrai cep qui nous a sauvés. C'est le vrai cep qui nous apporte. Nous en sommes, quand nous prenons conscience, quand nous avons un simple palu, nous ne pouvons même pas nous lever. Donc, le rôle du cep dans notre vie est fondamental. Mais c'est tellement... subtil que nous avons tendance à l'oublier. C'est pour ça que Jésus le rappelle à ses disciples. Il dit, je suis le vrai cep, le vrai soutien dont vous avez besoin. En tant que mes disciples, c'est moi, Jésus-Christ. Je suis le vrai cep. Mais il y a deux types de cep. Il y a le vrai et le faux. Parce que l'ennemi cherche toujours à contrefaire ce que Dieu a créé. C'est pourquoi il va vous miroiter des choses comme si c'était lui le vrai cep. Il va faire des miracles. Il va faire des choses, de la magie. Et vous allez penser que Dieu, non, ce n'est pas le vrai cep. Nous allons lire Éphésiens chapitre 2, verset 1. Et après, nous allons lire le verset 4 ici. Éphésiens, chapitre 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Versets 4 et 5. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. Amen. Par nos péchés, nous étions déjà morts. Même quand nous marchons, nous sommes déjà morts sans Jésus-Christ. Le faux cèpe va vous donner l'impression que vous êtes vivant. Celui qui n'a pas Christ, il est déjà mort. Mais c'est le vrai cèpe qui va nous donner la substance qui nous donne la vie. Et le cèpe n'a qu'un seul but, produire du fruit à travers ses branches. C'est le but, produire des fruits. De la même manière que le faux cèpe peut produire aussi des fruits, vous allez voir des gens qui sont chez les féticheurs, vous allez les voir très actifs partout. C'est leur fruit ça. Mais la différence entre les fruits du vrai cèpe et les fruits du faux cèpe, les fruits du vrai cèpe, c'est pour glorifier le nom de l'Éternel. Tout ce que nous produisons comme fruit en tant qu'enfants de Dieu, c'est pour la gloire de Dieu. Le message que je partage avec vous, c'est pour la gloire de Dieu. Parce que je ne connais rien sans l'Esprit Saint. Je ne suis qu'un canal en scène. Tout ce que je fais, c'est pour sa gloire. C'est la différence entre les fruits du vrai cèpe et les fruits du faux cèpe. Les fruits du faux cèpe, c'est pour la gloire des hommes. Les fruits du vrai cèpe, c'est pour la gloire de Dieu. Amen.
Amen.
Dieu nous dit, la Bible nous dit que Dieu est le vigneron. Jésus-Christ dit, Dieu est le vigneron. Comme je l'ai dit tout à l'heure lors de la définition, le vigneron est impliqué dans tout ce qui concerne la vie. La clôture, le sol, l'engrais, la rosa, tout ce qui concerne la vigne, le vigneron est impliqué dedans. Il est le propriétaire et en même temps le protecteur de la vigne. Donc vous pouvez comprendre qu'il est notre protecteur et notre propriétaire. Nous lui appartenons. Il n'y a rien que nous avons qui n'appartienne à Dieu. Il n'y a rien, mais absolument rien, en tant qu'enfant de Dieu que nous possédons qui n'appartient à Dieu. C'est le propriétaire, c'est le protecteur. En même temps qu'il est le propriétaire, il est le protecteur. Tout ce qu'il a déjoué comme pierre de l'ennemi sur nos vies avant que nous venions ici, ne savons pas. Il est notre protecteur permanent, il ne dort ni ne sommeille. Et déjà, dans l'Ancien Testament, Israël est considéré comme la vie de l'Éternel. Ce que nous aussi, nous sommes aujourd'hui. Nous allons voir cela dans Ésaïe 5, verset 7. La vie de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé, de la justice. Et voici des cris de détresse. Amen. C'est la vie de l'Éternel. Mais comme cette vie n'était pas attachée à Jésus-Christ, elle n'a pas pu garder les fruits que Dieu espérait de lui. Et nous verrons la différence tout à l'heure. Dieu chérissait Israël. Parce que c'est la vie de l'Éternel. Allons dans Ésaïe 27, versets 6 et 9. Ésaïe 27. En ce jour-là, chantez un cantique sur la vigne. Amen. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien. C'est l'Éternel qui est le gardien de la vie. Je l'arrose à chaque instant, de peur qu'on ne l'attaque. Nuit et jour, je la garde. Voilà ce que l'Éternel fait sur nous chaque jour. Parce que nous sommes sa vie. Amen.
Amen.
Mais nous allons voir dans Osée chapitre 10, verset 1. La vie qui n'est pas attachée à Christ, ce qui peut arriver. Israël était une vie féconde qui rendait beaucoup de fruits. Plus ses fruits étaient abondants, plus il a multiplié les autels. Plus son pays était prospère, plus il a embelli les statues. Amen. Parce que Christ n'est pas dedans. C'est l'Esprit de Dieu qui défend, qui nous permet de rester attachés tout en conservant la pureté du fruit. Sinon, l'orgueil va rentrer dedans. Nous allons penser que c'est par nos propres forces, ou bien c'est parce que nous sommes meilleurs, nous sommes un peu meilleurs à d'autres peuples. Et ça ouvre la porte à l'ennemi. On va commencer à confondre Dieu et la création. Ils ont embelli les statues, alors que l'abondance de Dieu était là. Dieu veillait sur la vie nuit et jour, et ça a commencé à porter des fruits. Mais l'orgueil des âmes. L'Éternel est attentif à tous les serments, afin que la vie produise abondamment de fruits. Dieu veut nous voir produire abondamment de fruits pour devenir des bénédictions pour les autres. C'est ce qu'il attend de nous. C'est pourquoi il veille sur sa vie. Il nourrit la vie, il entretient la vie. Et nous sommes les serments. Le chrétien, c'est le serment. Nous sommes les tendres et flexibles branches attachées au vrai cep pour porter des fruits. Parce que notre rôle, c'est de porter des fruits. Disons, retournons à notre texte principal, Jean 15, verset 2 et 3. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. Le rôle du serment, c'est de porter des fruits. Mais il faut que ce soit une branche tendre et flexible. Retenez toujours cette notion de tendresse et de flexibilité. Ici également, nous avons deux types de branches attachées au vrai cep. Celles qui portent de fruits et celles qui ne portent pas de fruits. Parce que vous pouvez être attaché à la vigne et ne pas porter de fruits. Le serment qui ne porte pas de fruits est retranché par le vigneron, bien qu'ayant été attaché au vrai cep. Amen. Et nous pouvons lire dans 1 Jean 2, verset 19. Nous n'allons pas lire toutes les écritures, notez-les, nous allons lire seulement quelques-unes au pouvoir. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Amen. Il y en a qui viennent dans la maison, qui font les premiers pas, mais ils ne sont pas là avec vous. C'est pour ça que tout serment qui ne produit pas de fruits, Dieu orchestre des circonstances pour les enlever. Amen. Dieu le vigneron, le propriétaire, s'intéresse aux serments qui portent des fruits. C'est les serments qui portent des fruits, c'est à ces serments qu'il s'intéresse. Et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. Donc quand vous commencez à porter des fruits, Dieu dit, voilà une bonne branche. Il faut que je m'occupe d'elle pour qu'elle porte encore plus de fruits. Voilà une très bonne branche. Et il commence le principe de l'émondage. Il dit au verset 2, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Donc pour porter du fruit, le serment 1 doit être attaché au 7. Si le serment n'est pas attaché au 7, il est impossible de porter la vie qui en porte. Le serment ne peut pas de lui-même porter des fruits. Il faut absolument qu'il soit attaché au Seigneur. Le chrétien qui veut porter des fruits, s'il n'est pas attaché à Christ, il ne peut pas. Impossible. Il faut qu'il soit attaché. La vie se trouve dans le Seigneur. Et c'est le principe de la relation vitale entre le chrétien et le Seigneur Jésus-Christ, qui est le vrai Seigneur. Il faut constamment rester en relation avec Christ. Demeurer en Christ pour porter beaucoup de fruits. C'est pourquoi il dira dans Jean 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez pas porter des fruits. Or, c'est quand vous commencez à porter des fruits que ça réjouit le cœur de mon Père, le vigneron, et vous accorde l'opportunité de porter encore plus de fruits. » Donc, si nous voulons porter plus de fruits, nous devons alors passer par le principe de l'émondage du vigneron. Parce qu'il dit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Et c'est là où je veux rentrer dans le cœur de mon message pour nous ce soir. Le principe de l'émondage. Qu'est-ce que l'émondage? L'émondage, c'est l'action d'émonder, d'élaguer les mauvaises plantes. Opération consistant à couper les branches latérales et parfois même le tronc pour faire naître des rejetons dont on utilise le bois. Ça, c'est la traduction du dictionnaire romain. C'est l'action d'élagage. On va enlever les mauvaises branches. Mais le mot grec traduit dans la Bible par émonder est kateio, qui signifie nettoyer les saletés. L'émondage signifie nettoyer les saletés. Les saletés, les impuretés. Purger. Débarrasser de culpabilité. Expier. Amen. Donc, il émonde la branche pour qu'elle porte des fruits. Il enlève les saletés, les impuretés qui sont dans la branche pour qu'elle porte des fruits. Il purge cette branche, ce sarment, afin qu'il puisse porter des fruits. Donc, si nous devons porter des fruits, nous devons laisser Dieu nettoyer les saletés, les impuretés. Et quand je suis arrivé à ce passage, je me suis rappelé de ce fil de fer que le pasteur nous a distribué. Le moi tordu, toutes ces imperfections peuvent être comparées à des saletés, à des impuretés qui sont attachées au sarment que nous sommes. Et la transformation en profondeur qui nous redresse, c'est Dieu qui est en train d'enlever ces impuretés et ces saletés de nous. Le vigneron ou le jardinier utilise généralement quatre instruments pour l'émondage. Pour faire l'émondage, il utilise généralement quatre instruments. Le premier, ce sont ses doigts, pour juste pincer, enlever les feuilles mortes et les fleurs fanées. Donc le premier instrument qu'il utilise, il arrive, il passe, il prend son doigt, il enlève les feuilles mortes, qui sont faciles à enlever. C'est déjà mort, donc ça ne demande pas beaucoup de... Le deuxième instrument qu'il utilise, c'est le sécateur, qui sont comme des pinces. C'est pour élaguer des épines sélectives, des pousses solitaires. Donc une branche qui sort de façon désordonnée ici, il prend le sécateur, il l'enlève. Mais quand il enlève avec le sécateur, parfois vous voyez la plante commence déjà à saigner, la sève commence à sortir. Et le troisième, il utilise des cisailles pour donner une belle apparence. Bien arrondir la plante. Là, vous voyez, il peut couper. Et quand vous voyez la façon dont il coupe parfois, vous allez penser que la fleur va mourir le soir. Parce que tellement, elle enlève tellement de branches, tellement de mauvaises feuilles et des feuilles qui poussent en désordre. Et ça donne l'apparence que la plante va mourir, peut mourir. Et le quatrième, c'est une scie pour couper le bois dur. Parfois, il y a des bois qui sont sortis en désordre, mais qui sont très durs. Il prend une scie même pour couper. Et vous imaginez ce que le sarment ressent en ce moment-là. Ces trois instruments, ces trois degrés d'émondage que Dieu fait dans nos vies. Ces trois degrés de transformation que Dieu fait dans nos vies. Et il ne le fait, il ne passera pas par la scie sans être passé par les doigts. C'est pourquoi la Bible dit, il ne vous enverra pas d'épreuves qui sont au-dessus de vos forces. Parce que les doigts qu'il a utilisés pour enlever les feuilles, quand il est passé au sécateur, il vous a déjà passé à une étape encore plus élevée entre les doigts et le sécateur, pour que la plante soit habituée, pour que la plante ne reçoive pas un coup brutal, mais que ce soit progressif. C'est de la même manière que Dieu nous transforme. Il ne nous envoie pas des épreuves d'un enfant à un adulte. L'épreuve qu'il envoie à un chrétien adulte, ce n'est pas ce qu'il envoie à un bébé adulte, un chrétien. Les quatre instruments représentent quatre étapes de l'émondage dans la vie du chrétien. De la même manière qu'un arbre a besoin d'émondage par le vigneron, le sarment que nous sommes, la tendre et fraîche branche que nous sommes a besoin d'émondage, de nettoyage de Jésus, de Dieu. Il faut être flexible, tendre, pour que le vigneron puisse manipuler et agir. Si nous sommes pleins d'orgueil, si nous pensons que nous sommes déjà arrivés, nous sommes déjà bishops, nous sommes déjà archibishops, nous ne sommes plus flexibles pour recevoir de Dieu. Le Saint-Esprit ne peut plus nous enseigner parce que nous pensons déjà que nous sommes au-dessus du Saint-Esprit, que nous connaissons tout. Le sarment doit être flexible, doit être humble pour laisser le vigneron le travailler. Parce qu'une chose est certaine, le vigneron ne va pas détruire sa propre vie. Dieu ne peut pas envoyer des preuves pour vous détruire. Le vigneron, sa fierté, c'est de voir sa vigne porter des fruits. Pour qu'il dise à ses voisins, tu vois la vigne qui est là-bas, c'est pour moi. Donc quand nous sommes pleins de fruits, Dieu est content. Quand l'ennemi vient pour demander à nous criber, il dit non, tu vois, ça c'est pour moi. Tu ne peux pas tout ça. Dieu ne peut pas nous envoyer des preuves pour nous détruire. Mais c'est pour que nous soyons meilleurs. Qu'il émonde les branches de nos vies qui poussent dans la mauvaise direction. Il redresse le moi tordu. L'émondage a pour objectif et finalité de redresser le moi tordu. Afin que la vigne puisse rentrer dans la destinée qu'attend d'elle le propriétaire. Tout le travail d'émondage que le Seigneur fait dans nos vies, c'est pour nous faire rentrer dans notre destinée. C'est pour nous ramener à l'idée originale qu'il avait en tête en créant chacun de nous. La transformation en profondeur, c'est de ramener l'idée originale qu'il avait, l'image qu'il avait. Vous savez, quand quelqu'un veut construire quelque chose, il a une idée dans la tête. Il a l'image finale du produit. Donc chacun de nous, il avait une image finale de nous avant de nous amener sur terre. Les vicissitudes de la vie, l'environnement, le contexte dans lequel nous sommes nés ont abîmé une partie de cette image parfaite qu'il avait. Et quand nous venons à Christ, nous devenons le sarment qui est attaché au vrai cep. Et le vrai cep nous donne maintenant la vie. Et cette vie nous permet maintenant de voir comment est-ce que dans certains compartiments de nos vies, nous avons besoin de transformation. C'est pour cela que le sarment doit être flexible et tendre, pour se laisser manipuler par le vigneron. Amen. L'idée originale qu'il a pour nous, c'est une idée merveilleuse. Mais il a besoin de faire ce travail. Je ne sais pas, quand on achetait les voitures venues de France en ce moment, il y avait des problèmes sur la tôlerie et autres. Et on envoie chez le tôlier. Alors, quand la voiture arrive, vous voyez, il découpe cette partie. Et sous telle partie, il commence par poncer. Vous voyez le marteau taper sur cette partie. Parfois, quand vous allez au garage, vous voyez la voiture, vous avez peur. C'est ma voiture qu'il a mis dans cet état-là. Parce qu'il est en train de polir. Et lui, il a l'image finale. Mais vous qui êtes le propriétaire, vous n'avez pas l'image finale. Vous voyez la voiture complètement dépiécée. Vous voyez les soudeurs en train de souder telle partie. Noir par là, gris par là. Parfois, vous avez le cœur fendu. Et puis, vous dites, vous rassure. Et une semaine, deux semaines après, vous repartez. Et vous voyez, la suture est terminée. Le peintre est passé par là. Le nettoyage a été fait à la station. Et vous arrivez et dites, voilà votre voiture. Waouh! Vous avez oublié ce moment de tolérer. C'est la même chose. Dieu nous amène quelque part où nous allons retrouver la beauté initiale que nous avions avec lui avant de venir dans ce monde. C'est ça le processus de restauration dans lequel nous sommes. C'est ça la justification. La justification, c'est de rendre juste, de rendre à la position originale afin que nous rentrions dans la fonction dans laquelle nous sommes. Et la justification, c'est un processus fonctionnel et non un processus de positionnement. Quelqu'un peut me passer cette chaise-là, s'il vous plaît. Amen. La fonction de cette chaise, celui qui l'a conçu, la fonction, c'est de s'asseoir et être confortable. S'asseoir sur la chaise et être confortable. C'est sa fonction. Celui qui a conçu la chaise, c'est ça la fonction. Et le péché, c'est de rendre cette chaise non fonctionnelle. Mais tout en étant chaise. Si je la mets dans cette position, elle est toujours une chaise. Mais elle n'est plus dans la fonction originelle que Dieu l'a. Mais elle est toujours une chaise. Mais personne ne peut s'asseoir dessus pour être fonctionnel, pour être confortable. C'est comme ça que nous sommes avant de venir à Christ. La fonction originelle a été déformée. Et Jésus-Christ vient pour nous justifier et nous mettre dans la fonction. Et quand il nous met dans la position fonctionnelle, pendant que nous étions couchés, ici il peut être déchiré, il peut y avoir de la saleté par là. Et c'est ça le travail que le vigneron est en train de faire pour enlever toutes les souillures afin que la chaise devienne complètement fonctionnelle pour que quiconque s'assoit là-dessus sente un confort inimaginable. Et celui qui a fait la chaise va dire oui, il assure la fonction dans laquelle je l'ai créé. Et c'est le travail que Dieu est en train de faire à travers chacun de nous. Et je rends grâce à Dieu pour la vie de son serviteur, le pasteur Berger, pour cette série sur la transformation en profondeur. Vous êtes en train de remettre chacun de nous sur la vraie position qui est la nôtre en Jésus-Christ. Je rends vraiment grâce à Dieu pour votre vie et pour cette inspiration que le Seigneur vous a donnée, pour que nous puissions complètement redresser notre moi tordu. Alors, comment Dieu nous aimons-t-il? Parce que c'est Dieu qui nous aimons. Comment il le fait? Il le fait de deux manières. La première, c'est par sa parole. À travers sa parole, Dieu expose notre vie afin que nous puissions identifier nos faiblesses et nos erreurs et mener une vie qui lui est agréable. Amen.
Amen.
C'est la parole de Dieu avec le Saint-Esprit en nous qui commence à nous exposer les parties qui ne sont pas en conformité avec la parole. L'Esprit de Dieu commence à ouvrir nos yeux sur les choses qui ne sont pas en conformité. Vous le lirez dans Hébreux 4, verset 12. Nous allons sauter cela, parce que le temps nous presse. Sa parole nous donne le pouvoir de mener une vie qui produit des fruits. C'est sa parole qui nous permet maintenant de commencer à produire des fruits. Par la présence du Saint-Esprit en nous, les fruits de l'Esprit commencent à se manifester, un à un, pas le tout à la fois, un à un. C'est sa parole qui nous donne ce pouvoir. Dans notre conversion, Dieu enlève notre culpabilité, notre condamnation. Nous tous, nous connaissons Romains 8, verset 1. Parce que c'est ce que l'ennemi utilise souvent pour nous déstabiliser. Quoi? Toi, tu penses qu'avec tout ce que tu as fait par le passé, là, Dieu t'aime? Non. Il commence par nous murmurer. Mais la parole de Dieu dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et c'est la parole de Dieu qui nourrit notre esprit pour faire taire toutes les autres voies que l'ennemi utilise pour nous déstabiliser. Dieu nous coupe de nos mauvaises habitudes qui nous attachent encore au monde. C'est la parole qui le fait également. Et ça, vous le verrez dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 11. Dieu nous émonde, il élève le vieil homme en nous afin de nous revigorer, nous faire revivre de nouveau et renouveler nos vies. C'est la parole de Dieu qui fait cela. C'est pour cela qu'il est indispensable, chers amis, de passer du temps dans la parole de Dieu. C'est la chose la plus difficile à faire. Il faut la grâce de Dieu et de la discipline de soi. La grâce de Dieu et la discipline de soi. Parce que la grâce de Dieu seule ne suffit pas. La grâce de Dieu seule ne suffit pas. Il faut de la discipline personnelle. Et dire, tous les jours, de telle heure à telle heure, je dois passer 30 minutes, je dois passer une heure de temps, je dois passer deux heures de temps. Même s'il y a un match, je vais suivre le match en différé. Mais ce temps-là est déjà consacré à Dieu. Même s'il y a un feuilleton, je vais suivre le feuilleton en rediffusion. Mais ce temps est déjà consacré à Dieu. La grâce de Dieu seule ne suffit pas. Mais il faut la discipline personnelle. Amen.
Amen.
Dieu nous émonte, je l'ai déjà dit, vous allez voir dans Psaume 51, verset 10. Ésaïe 40, verset 31. La deuxième méthode que Dieu utilise pour nous émonder, c'est les différentes épreuves de son école. Parce que j'appelle les épreuves qui nous arrivent comme des épreuves qui nous arrivent dans l'école de Dieu. Ce sont les épreuves de la vie. Je l'ai dit tantôt, l'émondage n'est pas un processus facile. Le sécateur, les scies, la cisaille, la plante souffle et reçoit un coup. L'émondage, c'est un processus qui est indispensable pour la croissance et la transformation en profondeur. C'est pour cela que ce n'est pas facile. Parce que nous avons déjà des habitudes, nous avons déjà des environnements dans lesquels nous sommes nés, et il faut changer tout cela. Mais il dit que cela est indispensable pour que la joie de Jésus-Christ soit en nous et que notre joie soit parfaite. Dans Jean 15, verset 11. C'est un processus indispensable. Je vais maintenant vous présenter sept étapes, mais qui sont en fait sept types de personnes auxquelles vous vous identifiez pendant votre processus de mondage. Amen.
Amen.
Quand nous passons par le processus de mondage, nous nous retrouvons dans la peau de sept types de personnes. Et à chaque type de personne, Dieu donne un message, Jésus donne un message à chaque type. Mais nous passons dans notre processus de mondage par chacun de ces sept types. Le premier type, c'est à celui qui est fatigué. À un moment donné, vous vous sentez fatigué dans votre épreuve. Soit c'est par le temps, soit c'est des amis en Christ sur lesquels vous comptez, que Dieu utilise pour vous donner une leçon. Parce que n'oubliez pas, toute personne qui vient sur le chemin d'un chrétien est sous le contrôle de Dieu.
Amen.
Amen. Jésus dit, je suis Alpha et Oméga. Quand nous venons à Christ, nos vies sont cachées en Jésus-Christ. Le début et le commencement, tout ce qui se passe dans cet intervalle est sous son contrôle. Donc, toute personne qui vient sur votre chemin est sous le contrôle de Dieu. Même s'il vous trahit, c'est une leçon que Dieu est en train de vous donner. Et à un moment donné, vous vous sentez fatigué. C'est pour cela que Jésus dira dans Matthieu 11, verset 28, nous allons le lire. Chacun des passages, nous allons les lire tout à l'heure. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Quand quand nous nous sentons fatigués à arriver à ce niveau où nous disons, Seigneur, je suis fatigué. C'est le moment de courir dans ses bras et de dire, Seigneur, je suis fatigué. Viens me donner du repos. Ce n'est pas être fatigué et quitter la vigne, mais c'est être fatigué pour se rapprocher encore plus du frère Seb. C'est quand, dans les difficultés, nous sentons que la force nous abandonne, que nous sommes épuisés par nos forces physiques, c'est le moment. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. C'est le moment d'aller vers lui. Ce n'est pas le moment d'aller vers un océan, parce que lui, il est le vrai. C'est là seulement que se trouve l'énergie qui vous permettra d'avoir la force pour continuer la marche. Après, vous allez arriver à l'étape de celui qui est chargé par le fardeau du péché, ou bien chargé par les épreuves de la vie. Toujours dans Matthieu 11, verset 29-30, il parle à celui qui est chargé par les épreuves. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. C'est le moment de chercher à vous confier à l'homme de Dieu qui l'a mis sur votre chemin pour partager le fardeau avec lui. C'est le moment de vous ouvrir afin que son ministère puisse vous impacter et vous donner tout le déchargement dont vous avez besoin pour pouvoir continuer la marche. Le troisième type, c'est à celui qui est troublé. L'événement arrive, l'épreuve arrive, vous êtes troublé, vous ne savez plus quoi faire. Mais pourtant, je vais à l'église, pourtant je prie, pourtant je paie ma dîme. Oui, c'est là où on est troublé. On est complètement désorienté. Et là, Ésaïe 35, versets 4 à 6. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Amen. Amen. C'est lui-même qui vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Amen. Amen. Quand vous êtes troublé, voilà ce que Dieu fait en vous. Il vous redonne espoir. Amen. Amen. À celui qui se sent perdu, on dit, Seigneur, cette histoire, je ne sais plus où va. Cette épreuve me dépasse. Je suis perdu. Quel va être mon avenir? Voilà ce qui me tombe sur la tête. J'avais cette trajectoire. J'étais sur cette trajectoire. Maintenant, je suis perdu. Et je me rappelle, le Seigneur m'a rendu ministère avec ce passage où j'étais vraiment perdu. Comme on le dit, la nuit est tombée en plein jour. Et le Seigneur m'a dit, si tu traverses les eaux, je serai. Elles ne te submergeront pas. Si tu passes par le feu, ils ne te consumeront pas. Mais pourtant, tu es déjà dans le feu. Amen. Lisons Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Quand vous êtes perdu, empruntez le chemin qu'est Jésus-Christ. Il vous ramènera toujours sur la ligne droite, la ligne de la destinée. Amen. Quand vous semblez que tout est perdu, que le chemin maintenant est complètement fermé, il dit, je suis le chemin. C'est le moment plutôt de s'accrocher au vrai cèpe qu'est Jésus-Christ. Parce que nous sommes les arbres. Ésaïe 35, verset 8-10. Nous allons lire cela également. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. nul impur ne s'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. En fait, Jésus avait dit tout à l'heure, dans un passage que nous avons retourné au verset 8, s'il vous plaît. Il y aura un chemin frayé, qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Jésus avait dit dans Jean 15 que nous avons lu, que vous êtes déjà saints à cause de la parole qui vous a prêchée. Donc ce chemin, c'est pour uniquement réservé pour nous. Aucun impur ne passera par ce chemin. Ce n'est que nous qui sommes sanctifiés par sa parole. Donc le chemin existe, mais c'est seulement réservé pour nous. Amen. Continuons la lecture. Elle sera pour eux seuls. Verset 9. Sur cette route, point de lion. Nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel que nous sommes retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Amen. Je ne sais pas qui est ici et qui semble complètement perdu en ce moment. Voilà ce que le Seigneur te dit cet après-midi. Et ce n'est pas une parole en l'air. C'est garanti pour toi parce que la parole que tu as reçue, tu es qualifié pour être sur ce jour. C'est ton lot ce soir. C'est ton repas ce soir. Tu y as droit. À un moment donné, à celui qui se sent coupable, tu te dis, c'est parce que j'ai posé tel acte que tout cela m'arrive. Tu commences par te culpabiliser. Tu commences par te culpabiliser. Chers amis, notez-le. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour augmenter ou diminuer l'amour de Dieu pour votre vie. L'amour de Dieu est là parce que vous êtes en Christ. Ce n'est pas vous qui avez aimé Dieu, c'est Dieu qui vous a aimé. La culpabilité, quand on a dans les épreuves et qu'on a déjà tenté plusieurs solutions, on ne trouve pas encore le bout du tunnel, on commence par se culpabiliser. On commence par culpabiliser son conjoint. On commence par culpabiliser. Écoutons ce que dit la parole par rapport à celui qui est coupable. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y en a plus, il n'y en a plus. Arrêtez de vous culpabiliser. Vous êtes dans un processus d'émondage. Et Dieu est dedans, comme aime le dit notre sœur. Dieu est dedans, il est dans l'émondage. Jean 5, verset 24. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il n'y a plus de culpabilité, il n'y a plus de jugement. Arrêtez de vous culpabiliser. C'est un processus normal dans lequel vous êtes. Assurez-vous seulement d'être attaché au vrai sel. Et Dieu est en contrôle. Le sixième, c'est celui qui a peur de la mort. Amen. Mais la peur de la mort ici, parfois ce n'est pas la mort physique. C'est la peur que tout s'écroule, la peur que toute la destinée meurt. Il n'y a plus d'espoir. Amen. Nous allons lire Colossiens 3, versets 1 à 3. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous des choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Plus rien, la mort ne peut plus rien vous faire. Votre vie aujourd'hui est en Christ. Donc vos plans que vous pensez qui sont déjà morts, vos projets qui sont déjà morts, ils sont en Christ. Et Christ est la vie. Il peut les ressusciter à tout moment. Amen. La vision que vous pensez qu'elle est déjà morte, Dieu peut la ressusciter à tout moment. Christ est la vie. L'épreuve que vous traversez aujourd'hui n'est pas encore la fin. Amen. À celui qui pense qu'il est abandonné, à un moment donné, on se dit, bon, Dieu l'a abandonné. C'est pour ça qu'il traverse tout ça. Dieu l'a abandonné. Moi, je me rappelle même des serviteurs de Dieu, dans la plus forte épreuve, commençaient à dire, oh, ce monsieur-là, il voyage tout, c'est sûr qu'il est devenu franc-maçon et Dieu l'a puni. C'est pour ça que tout ça là, lui arrive. Non seulement vous-même, vous allez penser que vous avez l'impression que Dieu, mais les gens autour de vous vous diront que Dieu l'a abandonné. C'est pour ça que ça lui arrive. Non seulement ils vont vous dire que Dieu vous a, ils vont vouloir vous proposer un autre cep au lieu du vrai cep. Ils vont vouloir vous proposer une autre foi. Mais écoutons ce que Dieu dit dans Hébreux 13, versets 5 à 6. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Amen. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Amen.
Amen.
Ésaïe 49, verset 14-15. Si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle a allaité? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Amen.
Amen.
Dieu ne peut pas vous abandonner. Tant que vous êtes resté attaché au vrai sept, Dieu ne peut pas vous abandonner. Voilà les sept étapes par lesquelles nous passons quand nous sommes dans notre phase de montage. Mais Dieu a un message pour chacun de nous. Je ne sais pas à quelle phase de l'émondage que tu te trouves, mais chacune de ces paroles, Dieu les a pour nous. Tout ce que nous expérimentons, ce n'est que le processus d'émondage. Et le processus d'émondage, c'est le signe que Dieu prend soin de nous. Le principe d'émondage, c'est le signe que Dieu prend soin de nous. Il est en train de jouer un rôle très actif dans notre croissance et dans le processus de transformation en profondeur. Amen.
Amen.
Cela devrait être un signe d'encouragement pour nous. Ne laissons pas l'ennemi nous murmurer que Dieu nous a abandonnés, que nous sommes sur un faux chemin, nous avons échoué, nos péchés nous ont éloignés de lui. Non. Et je terminerai mon message par un passage. 1 Pierre 5, versets 10 à 11. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ en sa gloire, à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. C'est ce qu'il réserve à chacun de nous, quelle que soit l'épreuve. Je me souviens en 2017, quand nous sommes arrivés ici, après, en 2016, après avoir présenté les lettres de créance, j'ai fait un voyage, donc tout premier voyage à Hong Kong. Et mon hôte m'a logé dans un hôtel qui m'a tourné la tête, ébloui. Une suite. Je n'avais pas expérimenté un tel luxe avant. Et le soir, après avoir travaillé toute la journée, le soir retourné à l'hôtel, c'était de voir la fenêtre de cette chambre où je voyais tout le luxe, le frigo rempli de champagne, de toutes sortes de whisky que vous pouvez imaginer étaient sur disposé. Et tout le temps, les gens appelaient de la réception, tout va bien, est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Et je me tenais debout devant la fenêtre, j'ai dit, Seigneur, Tout ceci était dedans. Et qu'est-ce qu'on est allé faire à la prison civile? Et l'Esprit de Dieu a commencé à me rendre ministère avec un pied sans fesse. Après avoir souffert un peu, il vous rendra inébranlable. Et les choses qu'il a pour vous, il va commencer à vous montrer les délices d'être avec lui. Il dit, si tu n'avais pas été là-bas, tu ne serais pas ici. Si tu n'avais pas connu cela, tu n'aurais pas apprécié à sa juste valeur tout ce qu'il y a ici. Parce que je le disais tout en lui rendant gloire et en lui rendant grâce. Parce que je savais que c'était lui qui était en train de vivre. Et l'Esprit de Dieu me disait, tu n'as encore rien vu, ce n'est que le temps. Et l'Esprit est en train de dire à quelqu'un aujourd'hui, là où tu es en ce moment, ce n'est pas encore la finalité.
Hey, la partie là.
Ce que Dieu a pour toi, tu n'as aucune idée de cela.
C'est ça même.
Ce n'est qu'un tout petit bout qui te révèle en ce moment.
Wow.
La seule chose qui te demande, reste attaché au frère.
Oh.
Tu n'as aucune idée de là où il t'amène. La destinée qu'il a pour toi est largement au-dessus de ce que tu peux imaginer parce que tu vois seulement le présent. Tu penses que tout est perdu. Tu penses que le chemin est fermé. Mais il est dans un processus de transformation afin que tu puisses apprécier à sa juste valeur. Quand le moment sera venu, tu puisses lui donner gloire. Et savoir que c'est lui qui le fait à travers toi.
Wow. J'aime la partie là.
La vie n'est pas encore terminée pour toi. C'est le processus de transformation en profondeur pour que tu puisses rentrer dans ta destinée, que tu puisses rentrer dans ta position fonctionnelle et fonctionner dans la plénitude de ce que Dieu avait en tête quand il te créait. La gloire qu'il voyait en toi quand il te créait. C'est dans ce processus que tu es en ce moment. C'est pour cela que je voudrais te demander humblement de te lever, nous allons prier. Je ne sais pas à quel point de cette personne, de ces sept personnages que tu te trouves en ce moment. Mais le Seigneur veut te dire que tu es dans un processus d'émondage avec lui. Il veut que tu portes des fruits, beaucoup plus de fruits. Afin que ta joie et sa joie soient parfaites. Seigneur, voici ton peuple présent devant toi. Tu es en train de passer chacun d'entre nous par ton processus d'émondage, Seigneur. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants à cause de ton amour pour nous. Oui, tu nous as trouvés dignes d'être des serments. Dans cette vigne dont Jésus-Christ est le vrai cep et toi le vigneron. Quel privilège, Seigneur. Nous nous remettons entièrement à toi, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que ce processus d'émondage, que tu le continues, Seigneur. Et que à travers ce processus, Seigneur, tu perfectionnes le moi intérieur de tout un chacun de nous. Nous prions, Seigneur, que tu redresses le moi intérieur de chacun de nous. Dieu de gloire, Dieu de fidélité, je prie maintenant afin que tu viennes, Seigneur, encourager celui qui est fatigué. Oui, Seigneur, donne de l'énergie à celui qui est fatigué, à celui qui est chargé par le fardeau, Seigneur, des épreuves. Viens ôter ce fardeau, Seigneur, et mets ton joug sur lui. À celui qui est troublé, Seigneur, donne-lui la paix. À celui qui semble perdu, Seigneur, montre le chemin, parce que c'est toi le chemin, Seigneur. À celui qui se sent coupable, Seigneur, tu as dit qu'il n'y a aucune condamnation sur quiconque est en Jésus-Christ. À celui qui a peur de la mort, Seigneur, nous sommes déjà morts, ressuscités, et notre vie est cachée en toi. Active ta vie dans nos vies, Seigneur. À celui qui pense que Dieu l'a abandonné, Seigneur, je prie que tu te révèles à lui, Seigneur, afin qu'il rentre dans sa destinée, qu'il te voit marcher avec lui dans ce processus de montage. Dieu de gloire, Dieu de fidélité, viens nous transformer comme tu as commencé. Viens redresser notre moi intérieur. Seigneur, viens nous encourager sur le chemin, Seigneur. Parce que nous savons que tu es Alpha et Oméga et nos vies sont en tes mains. Papa Yahweh, viens glorifier ton nom dans nos vies. Oui, Seigneur, Dieu de gloire, Dieu de fidélité, nous sommes les tendres et flexibles branches en tes mains. Transforme-nous à ta manière, Seigneur. Nous voulons porter des fruits, encore plus de fruits pour ta gloire et ta gloire seule. Seigneur, manifeste-toi. Dieu éternel, manifeste-toi. Glorifie ton nom dans la vie de tout un chacun de nous. Même partie de ce lieu, Seigneur, continue de nous rendre ministère. Continue de nous révéler, Seigneur, les parties dans nos vies que nous devons t'exposer afin que ton processus d'émondage soit parfait dans nos vies. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle de la vie de tout un chacun de nous. Viens nous diriger sur le chemin. Accorde-nous la grâce de rester attachés, fermement attachés aux vraies sèches, pour avoir la vie et porter des fruits en abondance pour la gloire du Père, le vigneron. Merci Père Céleste. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen.
Amen.
Que Dieu vous bénisse.